Les interfaces cerveau-ordinateur sont des systèmes qui recueillent des signaux électroencéphalographiques en vue d'identifier certains aspects de l'état cognitif ou émotionnel de la personne. Dans leur modalité active, elles peuvent permettre au sujet de générer des commandes à des applications extérieures en utilisant sa pensée. Dans leur modalité passive, les signaux électroencéphalographiques sont enregistrés en dehors de tout contrôle volontaire. Il en est ainsi des recherches tendant à identifier les émotions. Des processus de feedback, c'est-à-dire d'information en rétrocontrôle des sujets, peuvent informer la personne de son état émotionnel pour lui permettre de le moduler. Des logiciels ont pour objectif d'agir directement sur ses états émotionnels, par exemple en diffusant une musique adaptée. Ces informations peuvent aussi être transmises à des tiers qui peuvent ainsi mettre en œuvre une surveillance de l'état émotionnel. Tel est en tout cas l'objet de vastes projets développés en Chine, soutenus par le gouvernement et visant certaines professions comme les transports publics et notamment les conducteurs de trains à grande vitesse, les militaires et un certain nombre d'entreprises. L'une d'elles regroupe 40 000 employés et est chargée de la répartition de l'énergie électrique dans une province chinoise. Les techniques utilisées sont de plus en plus sophistiquées. L'activité cérébrale est recueillie grâce à des capteurs intégrés dans des casques ou dans d'autres couvre-chefs. Les signaux sont adressés en temps direct à des ordinateurs qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle permettant de détecter les pics émotionnels, notamment dépressifs, d'anxiété ou de rage. La Chine n'a pas l'exclusivité de ses recherches, mais elle les développe à une échelle sans précédent. Le but est d'accroître la compétitivité et la stabilité sociale des personnels sur lesquels il est possible d'agir directement, soit en mettant les sujets dont l'état émotionnel est jugé critique au repos, soit en les changeant de poste, ce qui prévient les erreurs humaines, notamment dans les missions nécessitant une haute concentration. Les déstabilisations émotionnelles sont en effet considérées comme capables de compromettre non seulement la productivité, mais aussi la sécurité au travail. Cette possibilité d'action préventive sur ce que l'on appelle les facteurs organisationnels et humains se traduit aussi par une meilleure santé financière des entreprises. Bien sûr, tout cela ne va pas sans résistance et méfiance initiale des personnels qui craignent qu'on ne lise dans leurs pensées. Ils semblent ensuite s'habituer à ce mode de surveillance, mais ont-ils d'autres alternatives ? Comment évaluer sur le plan éthique cette intrusion d'un contrôle dans le vécu émotionnel d'autrui ? Certes, l'argument qui incline à cette utilisation des progrès scientifiques est utilitariste. Viser la productivité et la sécurité, c'est viser le plus grand bien pour le plus grand nombre. Mais qu'en est-il de l'autonomie ? Les personnels ne pourront se soustraire à cette relation de contrôle qui a aussi un relent d'instrumentalisation de la personne humaine, vue essentiellement comme une machine à permettre la bonne santé de l'entreprise. Les êtres humains devront-ils se résoudre demain à être d'abord des réalités numériques qui construiront des identités transparentes, facilement contrôlables ? C'est tout un monde que chacun porte en soi, disait Alfred de Musset. Ce monde de l'intime n'est-il pas une nécessité éthique ?